de chaque côté de la colonne vertébrale, dans la partie postérieure et supérieure de la cavité abdominale, deux organes triangulaires coiffent l'extrémité supérieure du rein à la manière d'un bonnet phrygien. Leur position au-dessus du rein les a fait nommer glandes ou capsules surrénales. Elles mesurent chez l'homme 3 cm de haut, 2,5 cm de large, moins d'un centimètre d'épaisseur. Chez l'adulte, leur poids total atteint 12 grammes. Leur couleur est brun-jaune, tirant plus ou moins sur le rouge. Elles ont une consistance assez molle, elles sont fragiles et s'effritent facilement sous le doigt. Ces glandes sont abondamment vascularisées. Trois groupes d'artères assurent l'apport sanguin. Artère surrénale venant directement de l'aorte. Branche de l'artère diaphragmatique et de l'artère rénale. De gros troncs veineux ramènent le sang à la veine cave ou à la veine rénale. Il passe 6 à 7 cm cubes de sang par gramme de glande par minute. Enfin, l'innervation est particulièrement riche. Une telle richesse des appareils vasculaires et nerveux donnait à penser aux premiers anatomistes qu'ils étaient en présence d'organes importants. Et pourtant, pendant longtemps, la fonction de ces organes resta énigmatique. Vous allez voir comment peu à peu se fit la lumière. S'il me fallait illustrer d'un seul exemple la démarche de la science à la recherche des hormones, c'est celui des glandes surrénales que je choisirai. Depuis plus de 100 ans, ces glandes sont à l'étude. Depuis près de 100 ans, elles ne cessent d'être la source de découvertes qui marquent des étapes importantes dans l'histoire de l'endocrinologie. En 1837, Rayer, après avoir étudié chez de très nombreux malades l'anatomie pathologique des surrénales, terminait son travail par cet aveu décourageant que l'étude des altérations des capsules surrénales avait offert jusqu'ici peu d'intérêt, qu'elle avait pu sans inconvénient être négligée par les pathologistes et qu'elle n'avait jeté aucune lumière sur la fonction de ses organes. Mais voici qu'en 1855, un médecin anglais, Addison, décrit une curieuse maladie associée constamment à des lésions des surrénales. Peu de temps après, Trousseau, médecin de l'Hôtel Dieu, propose dans une de ses célèbres leçons cliniques d'appeler maladie d'Addison cette singulière cachexie spécialement caractérisée par une coloration particulière, par la teinte bronzée que prennent les téguments. Et Trousseau raconte l'histoire de son malade, un homme de 30 ans, cocher du ministre de l'Intérieur. Il avait considérablement maigri depuis 4 à 5 mois. Depuis 3 mois, ses mains restaient noires, quelques soins qu'il prit de les laver. Son visage prenait la teinte bistre, enfumée, de la peau du mulâtre. L'intérieur de ses lèvres avait une coloration rappelant celle que présente la cavité buccale de certains chiens. Cette teinte noirâtre se montrait sur différentes parties de son corps, plis de laine et du bras, etc. Les bains prolongés ne pouvaient venir à bout de la faire disparaître. Cet homme disait avoir perdu beaucoup de ses forces, à ce point qu'il lui était impossible de faire des courses même très peu longues et qu'il lui arrivait que ses jambes fléchissaient sous lui. Le malade éprouvait des douleurs comme rhumatismales dans la profondeur des flots. La mort survint peu de temps après son admission à l'hôpital au milieu de troubles intestinaux sévères. À l'ouverture du corps, nous trouvâmes dans les capsules surrénales de nombreuses masses tuberculeuses, conclut Trousseau. les symptômes de la maladie étaient-ils dus à l'insuffisance de fonctionnement de ces glandes. Il appartenait au physiologiste français Brun Séquard de répondre. En 1856, Brun Séquard enlevait chirurgicalement les surrénales à des chiens et faisait apparaître les symptômes cardinaux de la maladie décrite par le clinicien Addison. Cette découverte marque le début de l'endocrinologie. La première glande à sécrétion interne venait d'être identifiée comme telle. Remarquons ici le déroulement chronologique des faits. L'étape de la description clinique et anatomique a précédé celle de l'expérimentation. C'est un bel exemple de coopération de la médecine et de la science. À ces deux étapes succéda l'étape thérapeutique. Des extraits totaux de glandes surrénales furent utilisés dans la maladie d'Addison. Leur efficacité marqua les premiers succès d'une méthode de traitement qui se généralisa, l'opothérapie. Les chimistes se mirent à l'œuvre. Une cinquantaine d'années après la publication d'Addison, on détermina la formule chimique d'une substance cristallisée, extraite des surrénales, l'adrénaline, et on la reproduisit par synthèse. L'adrénaline est la première hormone cristallisée reproduite par synthèse. Il s'agit encore d'une découverte historique. On s'aperçut bien vite que l'adrénaline n'était pas la seule hormone fabriquée par la surrénale et que sa déficience ne rendait pas compte de tous les symptômes de la maladie d'Addison. C'est que la surrénale est en réalité formée de deux tissus distincts d'origine, de morphologie et de fonction tout à fait différents. L'un de ces tissus sécrète l'adrénaline. L'autre sécrète des substances indispensables à la vie que les chimistes étudient activement aujourd'hui. C'est cet autre tissu qui est lésé dans la maladie bronzée d'Addison. Examinez au microscope une coupe de surrénale. Vous verrez que cet organe est constitué par l'union intime de deux glandes. L'une, périphérique, appelée cortex ou cortico-surrénale. L'autre, centrale, la médulo-surrénale. La cortico-surrénale est formée de cellules plus ou moins chargées de granulations graisseuses, présentant le phénomène de la double réfraction. La médulo-surrénale présente des éléments cellulaires disposés en cordons entre lesquels s'insinuent de nombreux capillaires. Ces cellules possèdent une grande affinité pour les sels de chrome et se colorent en vert par les sels ferriques. Nous venons de voir l'aspect des surrénales au microscope. Étudions maintenant comment cet organe a pu apparaître et se différencier chez l'embryon. Dans un premier stade, deux îlots de cellules, l'un épithélial, l'autre ganglionnaire, se constituent dans des territoires différents de l'organisme. Dans un deuxième stade, ces deux îlots s'accolent. Ils s'enchevêtrent dans un troisième stade. Enfin, les embryologistes distinguent un quatrième stade, où une délimitation s'opère entre les deux zones corticales et médulaires. Poursuivons notre enquête sur la surrénale. Interrogeons l'anatomie comparée. Ces glandes se retrouvent dans toute l'échelle des vertébrés. On les appelle corps interrénal, correspondant à notre médulo-surrénale, et corps surrénal, correspondant à notre cortico-surrénal. Les rapports réciproques de ces deux glandes différentes varient beaucoup selon les espèces. Chez les Sélaciens et les cyclostomes, les deux corps sont séparés et indépendants. Chez les amphibiens et les reptiles, les deux corps sont accolés. Chez les oiseaux, ils sont enchevêtrés. Chez les mammifères, ils forment un seul organe à l'intérieur duquel la délimitation est nette. Nous venons de passer par transition des vertébrés inférieurs aux vertébrés supérieurs. Il est remarquable que les rapports réciproques entre les deux sortes de glandes s'ordonnent selon les mêmes quatre modes et selon la même succession que ceux révélés par l'étude du développement embryonnaire. Ce parallélisme entre l'évolution des espèces et l'évolution embryonnaire avait été pompeusement baptisé par Haeckel « loi biogénétique fondamentale ». Dualité anatomique, dualité histologique, dualité embryologique, dualité en anatomie comparée. Cette dualité se retrouve en physiologie. À quoi servent les surrénales? Nous le dirons dans notre prochain entretien.